marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Alors je vais appeler nos ingénieurs du Centre d'exploration du temps. Allô, au Centre d'exploration du temps, me recevez-vous ?
La grande guerre sans fin à l'Est.
Passe-pont, ça fait 8 ans que je suis parti de chez moi. Merde !
Mais moi, 7 ans, ça va plus. Hein. 7 ans, ça va plus.
La guerre pour la France, on l'a faite. Même ici. Seulement maintenant, on nous demande de nous battre contre des ennemis qui ne sont plus les nôtres. Les Hongrois. Ou même qui sont d'anciens alliés. Les Russes. Nos familles nous attendent. Nos femmes. Les enfants qu'on ne connaît pas tous. Le travail, les champs, la vie, quoi. Ça ne peut plus durer, c'est tout.
Un extrait de Capitaine Conan, le film de Tavernier. L'effondrement, en 1917-1918, des grands empires dynastiques a creusé des gouffres béants en Europe. En janvier 1919, il y a 100 ans, s'ouvre la conférence de paix à Versailles. Avant que ne soit mise au point l'organisation des États successeurs, les nationalismes rivaux jaugent leurs pouvoirs respectifs, tandis que l'internationalisme prolétarien, inspiré par la révolution bolchevique, gagne de nombreuses régions du continent. Les Alliés veulent maintenir des rapports de force qui leur soient favorables sur le terrain. Ils savent aussi qu'il ne leur suffira pas de dicter la paix, il leur faudra la faire appliquer. L'heure n'est donc pas à la démobilisation rapide qu'avaient espéré les troupes. De nombreux soldats qui croyaient à la fin de partie doivent jouer les prolongations. Et si au final ils rentrent au pays, il faut aussi assurer la relève. Les Français pour cela ont à leur disposition les tirailleurs sénégalais et malgaches qui vont ainsi se retrouver propulsés jusqu'aux confins de l'Europe. Nouvelle zone d'opération, beaucoup d'entre elles étant maritimes, de la Baltique à la mer Noire. Nouveau type de mission, l'assistance aux armées nationales des pays successeurs par exemple. La mission militaire française en Pologne, à laquelle participera le jeune capitaine de Gaulle. Les opérations humanitaires, les bateaux au large de Sébastopol et d'Odessa vont appuyer l'évacuation au printemps 19 de dizaines de milliers de civils qu'il faut protéger des bolcheviks. Mais la mer Noire appartient aussi aux légendaires communistes puisque, pendant le même printemps 19, s'y produisent des mutineries de marins dont on ne sait toujours pas dire si elles relèvent de la lassitude d'une guerre sans fin ou de l'espérance de temps nouveau. Décidément, la Grande Guerre, c'est plus que la Grande Guerre.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Isabelle Davion, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
D'une belle exposition qui a eu beaucoup de succès à l'Est, la guerre sans fin. On lui emprunte notre titre au musée de l'armée, aux Invalides. Reste un catalogue chez Gallimard auquel vous avez participé de près. Vous êtes quelqu'un qui a travaillé ou travaille dans des établissements dépendants du ministère de l'enseignement supérieur et dans d'autres dépendants du ministère de la Défense.
Exactement, il faut diversifier ses activités.
Tout à fait. Et allez, on va dire d'un mot que vous n'aimez pas plus que moi, que vous êtes experte de l'Europe médiane. Je dis ça parce que, avant qu'on ne parle des soldats, il faut dire que dès avant la conférence de paix, pendant la conférence de paix, avec 60 commissions et sous-commissions peut-être, aux experts civils étaient demandées beaucoup de choses, par exemple pour la définition de la recomposition de l'Europe médiane issue de l'Empire austro-hongrois, de l'Empire allemand, voire de l'Empire russe déchu.
Effectivement, il y a tout un milieu savant et technicien, je dirais, qui a été mobilisé à partir de 1917, que ce soit en France, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Dans le fond, on commence à travailler sur les buts de guerre parce qu'on sait qu'on va gagner la guerre. On ne sait pas quand, mais on sait qu'elle sera gagnée par l'entente. Et on demande aux experts de commencer à déminer les endroits de la carte dont on sait qu'ils vont poser problème. Donc vous avez des organisations plus ou moins confidentielles qui se mettent en place et elles sont là jusqu'au traité de paix, jusqu'en 1919. Alors pour la France, c'est le comité Charles Benoît qui est dirigé par l'instituteur de la Troisième République, Ernest Lavis himself, et puis co-présidé par Vidal de la Blache. Et on y trouve tous les grands spécialistes, notamment de l'Europe centro-orientale, par exemple Ernest Denis pour les pays de Bohème, etc., etc.
Et les experts militaires, il y en a dans ces commissions. Alors, et sous-commissions,
pas trop
et leur rôle est assez mineur, sauf que quand il faut sur le terrain maintenir ou réétablir des rapports de force pour rendre possible l'application de la paix, là, on fait appel aux soldats. Ça va être l'autre fil conducteur, parce que je pense que beaucoup de nos auditeurs vont être surpris, comme l'étaient leurs aïeux, de voir que la guerre n'est pas finie avec le début de la conférence de paix, ni même d'ailleurs avec la signature de la paix, ce sera le 28 juin 1919. Tenez, premier exemple qui va nous amener en Hongrie. Mmh. En Hongrie, on entendra le nom de Béla Kun être prononcé. Il y a comme ailleurs la menace rouge. Ce premier témoin, c'est un brave caporal, téléphoniste, français. Il s'appelle Benoît. Il est heureux comme Baptiste quand il apprend fortuitement la nouvelle de l'armistice. Mais après,
je me branche et je dis allô, allô, qui est là? J'entends un français. Qui est là? La division. Ah, ah, ah. Et je lui dis, alors quoi de nouveau? Il me dit, ben, vous avez bien appris l'armistice. Quel armistice? Celle du 11 novembre? Ah, je lui dis, mais dis donc, quel est ton grade, toi? Eh bien, il dit, je suis téléphoniste, simplement. Mais il dit, appelle un officier. Et moi, j'en appelle un, mon régiment. J'ai pas besoin de vous dire que ce fut une joie générale et que je mis pas longtemps pour descendre du poteau et essayer de trouver quelques vieux bidons par là, remplis de bons pinards d'intendance, pour boire à la santé de la victoire. Hélas, pour nous, l'armistice ne durera pas longtemps.
Qu'est-ce qui se passe? Alerte! Ça bouge là-dedans! Alerte!
La Hongrie devient communiste.
Nous sommes rentrés en France qu'au mois de juillet 1919. Après avoir combattu pendant 6-7 mois encore contre les bolcheviks de Béla Kun.
Eh oui, il a fallu au caporal Benoît et à ses camarades réduire la République des conseils que dirige Béla Kun. Faut pas d'ailleurs imaginer, Isabelle Davion, une menace communiste organisée par Moscou qui peut avoir d'autres succès. Les spartakistes en Allemagne dont on a parlé ici, ils ont leur autonomie. Béla Kun aussi d'ailleurs par rapport aux bolcheviks.
Oui, alors effectivement, d'une part là on n'est plus dans la menace, on est dans la réalité concrète du bolchevisme. Mais le parti communiste, disons tchécoslovaque, a été fondé en décembre 1918 et Béla Kun prend...
Vous voulez dire hongrois?
Hongrois, oui, pardon, excusez-moi. Et Béla Kun prend le pouvoir en espérant justement faire jonction avec les bolcheviks. Mais les bolcheviks, au printemps 1919, sont en pleine guerre civile. Ils ne peuvent absolument pas s'occuper de ce qui se passe du côté de la Hongrie et de la Slovaquie d'ailleurs, puisque la guerre a éclaté. Et l'espoir de Béla Kun serait d'aller les rejoindre via la Galicie polonaise. Mais il est seul en fait à se battre parce que les Russes sont occupés ailleurs.
Oui, mais enfin, il tient 133 jours, c'est-à-dire oui, davantage que les spartakistes.
Et puis, ah oui, c'est même la plus longue expérience de bolchevique de la période, hors la future Union soviétique, bien sûr.
Alors, on se met là du point de vue français, Clémenceau encore. La France veut intervenir?
Alors pas trop. On hésite à intervenir parce que il y a une mission militaire française qui est sur place en Tchécoslovaquie, mais qui n'a pas vocation normalement à se battre à la place des Tchécoslovaques. Hein. Ils sont là, c'est une mission de formation de l'armée parce que on a des Tchèques, des Slovaques qui viennent de traditions militaires différentes. Il faut fonder tout ça en une armée nationale et c'est la mission de la France que de forger cette armée. Mais lorsque l'on voit que au départ la Tchécoslovaquie progresse,
toujours de la Hongrie.
Oui, mais je veux dire, la Tchécoslovaquie entre en Hongrie et progresse. Ah. Et à partir du moment où Béla Kun contre-attaque, là, on voit bien qu'il y a un énorme souci. D'ailleurs, le maréchal Foch en appelle aux grands qui sont à la conférence de la paix pour leur dire la menace hongroise n'était rien, on l'a laissé grandir et s'installer. Maintenant, il faut faire quelque chose parce qu'on a un de nos alliés qui risque de s'effondrer. Et à partir de là, la mission française militaire devient une mission de commandement. Et d'ailleurs, Tomasz Masaryk, qui est le président Tchécoslovaquie donne le commandement de l'armée tchécoslovaque au général Pellé, général français, qui va se battre, donc avec notamment le soldat dont on a entendu ici
le un témoignage Benoît, sonore,
voilà, ouais. va se contre battre Béla-Koun, contre Béla-Koun. Oui.
La rébellion ou la révolution des conseils est réduite.
Oui. Fin juin.
Les mois qui suivent sont quand même un peu difficiles et ne laissent pas nécessairement aux Hongrois un excellent souvenir des Français.
Non, mais bon, des Français, puis de la période même de façon plus générale, puisqu'on a parlé de terreur blanche sur tout ce qui s'est passé en Hongrie à la suite de cette expérience de République des conseils. Oui.
Donc c'est une des raisons multiples de l'amitié que Viktor Orban manifeste quotidiennement, ainsi que Matteo Salvini, dont on entendait parler il y a un instant, vis-à-vis de Paris. Et la Pologne. Alors, on va s'appesantir davantage sur la Pologne, parce que pour la France, elle a un rôle essentiel, c'est l'Alliance Arvert. La Pologne a pour fonction, maintenant qu'elle se reconstitue, d'être le vis-à-vis de la France, de l'autre côté de l'Allemagne. Elle pourrait intervenir en Allemagne ou contenir l'Allemagne depuis l'Est. Ce qui explique l'enthousiasme avec lequel le ministre des Affaires étrangères de Clémenceau, Stéphane Pichon, accueille la reconstitution de la Pologne.
À son Excellence, Monsieur Ignace Paderewski, président du Conseil, ministre des Affaires étrangères du gouvernement polonais. Paris, le 23 février 1919. Monsieur le Président. J'ai l'honneur de vous faire connaître que le gouvernement de la République française a décidé de reconnaître officiellement la Pologne comme État indépendant et souverain, et son gouvernement appuyé sur la volonté nationale comme gouvernement régulier. Des liens immémoriaux unissent la Pologne et la France. Dans aucun pays, la renaissance de votre patrie, après un long martyre qui n'a pu l'abattre, a été souhaitée plus ardemment qu'en France, et n'y aura un plus grand retentissement. C'est avec une profonde émotion que je vous adresse les vœux de la France pour le bonheur et la prospérité de la Pologne renaissante.
Alors, dans cette première moitié de 19, il faut bien comprendre que les frontières ne sont pas définies. C'est d'ailleurs une des fonctions de la conférence. Vous parliez du rôle des experts et des géographes. Et la limite entre la Russie bolchevique et la Pologne de l'aigle blanc de Pilsudski, elle est à déterminer en fonction du rapport de force. Il faut employer ce mot tout le temps, du moment. Et peut-être la Pologne voit-elle un peu grand. En tout cas, elle va se retrouver assez vite en difficulté.
Alors, elle est vraiment très très intéressante, cette archive, parce que, dans le fond, ce qu'il faut quand même bien dire, c'est que l'existence de la Pologne, comme de la Tchécoslovaquie, etc., sont des faits accomplis dont la conférence de la paix hérite en janvier 19. C'est des pays qui ont été proclamés d'ores et déjà. C'est pas les quatre grands qui le décident. Mais là où ils interviennent, c'est pour le tracé des frontières. Et dans la lettre de Pichon ici, il y a tout, en fait. D'abord, il y a la référence à cette vision très romantique de l'amitié immémorielle de la France et de la Pologne, alors que dans le fond, c'est comme une relation qui est assez chaotique et qui est faite de beaucoup de sentiments, mais aussi beaucoup de malentendus. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que cette déclaration de Pichon au nom du gouvernement français est entendue par les Polonais, du fait des termes qui y sont utilisés, comme une reconnaissance de la Pologne historique et donc de ses frontières historiques. Or, que sont les frontières historiques de la Pologne ? Ce sont, du point de vue polonais, les frontières de la Res Publica de 1772, moment où la Pologne a été partagée entre les trois grands empires. Et c'est un territoire qui intègre de très nombreuses terres qui ne sont pas polonaises au sens, comme on disait, ethnique de l'époque. C'est-à-dire que c'est la Lituanie, une partie de l'Ukraine, du Bélarus, et c'est ça que les Polonais veulent recouvrer. Et la lettre de Pichon est prise, en fait, dans le fond, comme un chèque en blanc. Et là, les Polonais vont un peu déchanter, parce que autant à l'ouest, on va même encore plus loin que les frontières de 1772, parce que la Silésie d'Ancig, enfin, qui n'est pas vraiment l'ouest, mais vous voyez ce que je veux dire, ne faisait pas partie de la Pologne au XVIIIe siècle. Autant à l'Est, les Britanniques, mais les Français sont bien obligés de suivre, disent « Oh là là, il n'est pas question que l'on déborde d'une ligne qui passe par Brest-Litovsk et Przemyśl, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la Linkerzone. » Mais ça, les Polonais, ça les intéresse pas, la Linkerzone. Donc ils vont aller se servir eux-mêmes. Voilà ce que fait Pilsudski.
Et l'armée rouge n'est pas disposée à faire le service. Et quand les Polonais se trouvent en difficulté. Vous nous parliez tout à l'heure de missions militaires, Prague, Budapest. Mmh. Il va y avoir une mission militaire en Pologne.
Très importante mission militaire en Pologne. Là aussi, au départ, le même objectif qui est de forger cette armée polonaise. Alors, Piłsudski n'est pas très ravi de voir arriver des conseillers français sur le sol polonais. En même temps, ça fait 4 ans qu'on fait la guerre, donc on a quand même cette expertise. Voilà, je réemploie le mot. Et tant que la Pologne a progressé en terre ukrainienne, voire vers la Russie, les Français ont laissé faire et ne voulaient pas trop y participer. D'ailleurs, les premières victoires polonaises du printemps 19, ça réjouit le milieu militaire et notamment le maréchal Foch qui pense que, comme vous le disiez, plus la Pologne est forte, mieux c'est. C'est-à-dire que la Pologne, c'est à la fois l'alliance de revers, donc pour prendre l'Allemagne en tenaille pour la prochaine, parce qu'on sait bien qu'il y en aura une prochaine contre l'Allemagne, mais c'est aussi le cordon sanitaire. C'est-à-dire ce que disait Clémenceau, c'est le fil de fer barbelé pour empêcher les barbares bolcheviques de se ruer sur l'Europe civilisée. Donc, dans le fond, on a besoin de cette Pologne extrêmement forte. Mais les milieux militaires se réjouissent de cette conquête polonaise, les milieux diplomatiques et politiques un peu moins, notamment parce que Clémenceau sait que les Britanniques ne sont pas de grands groupies de la Pologne, ils ne veulent pas qu'elle dépasse la Linkerzone, et Clémenceau est bien obligé de composer avec les Britanniques. Alors, à partir du moment où l'armée rouge contre-attaque, c'est-à-dire quand l'armée rouge est à peu près débarrassée des Blancs, au printemps 1920, voilà, c'est terminé, à peu de choses près pour les Blancs, donc les bolcheviks se retournent, et là, ils vont arriver aux portes de Varsovie. Là, il y a la survie de la Pologne qui est en jeu, mais honnêtement, on pense dans le fond que c'est un combat quasiment perdu d'avance et que la Pologne s'est terminée. Mais on va quand même participer et se battre aux côtés des Polonais lors de la bataille de Varsovie.
Et la situation va se retourner.
Et oui, le 15 août 1920, il n'en faut pas plus pour que les Polonais parlent de miracle de la Vistule puisque c'est la fête de la Vierge.
1920, vous avez brûlé les étapes en disant que c'en est presque fini des armées blanches. On va voir maintenant ce qui se passe un peu plus à l'est, justement, du côté russe, où la guerre civile s'installe durablement. Le chant que voici, il est utilisé et par les uns et par les autres. C'est commode. Il date même à l'origine du 19e siècle. C'est la marche du régiment Drozdovski. Исполняя тяжкий долг во спасение народа, исполняя тяжкий долг, ночей бессонных и решений выносил, но герой закаленных пуль далеки не страшил, но героев закаленных пуль далеки не страшил.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Aujourd'hui, 26 décembre 1918, moi, général Denikin, je prends le commandement de toutes les forces de terre et de mer se battant dans le sud de la Russie. La nouvelle armée unifiée prendra le nom de Force armée du sud de la Russie. Elle se compose maintenant de 60 000 hommes. L'armée des volontaires devient une simple unité des forces armées du sud de la Russie. J'en ai confié le commandement au général Wrangel. Et tous ensemble, nous marchons vers la victoire.
Le général Denikin et le général Wrangel sont au sud. Et il va y avoir un corps expéditionnaire que Clémenceau souhaitait, à la fois au sud et au nord. Il s'agit de prendre les bolcheviks en étau.
Oui, exactement. Le bolchevisme qui est considéré vraiment comme le mal suprême. On voit bien dans les discours des alliés que dans le fond, les bolcheviks, c'est pire que le régime du Kaiser. Et les Britanniques le disent. Chaque soldat français et anglais qui a été tué après octobre 1917 sur le front de l'Ouest, il a été tué par Lénine et Trotsky, en fait. Parce que c'est à cause de la révolution russe que les troupes allemandes sont reparties sur le front occidental. Alors, ces corps expéditionnaires, oui, les Français et les Britanniques se sont plus ou moins finalement partager des zones d'intérêt. C'est-à-dire que les Britanniques sont au nord, voire au-delà du cercle polaire arctique, hein, puisqu'ils sont à Arkhangelsk et Mourmansk, parce qu'ils veulent faire de la mer Baltique leur zone. Et les Français, comme vous le disiez, sont plutôt intéressés par la Russie du Sud, par la Crimée, c'est-à-dire qui est quand même une région aussi très riche, charbon, blé, etc. Et donc, on envoie un corps expéditionnaire prélevé sur l'armée d'Orient, cette armée qu'on entendait dans votre extrait de Capitaine Conan en début d'émission. Et puis, vous avez également, il faut le dire, un corps expéditionnaire en Sibérie, parce qu'il y a le stock de munitions de l'Entente à Vladivostok. Et là, le Français, le général Janin, est avec Stefanik pour récupérer les légions tchécoslovaque.
Au sud, en Crimée, il fait un froid de Sibérie. À entendre le témoignage sur les trois années terribles qui s'ouvrent de Nina Gorfinkel.
Nous avons eu à Odessa, pendant ces années entre 1917 et 1920, janvier 1920, 13 changements de régime. Nous avons été pris par toutes sortes de bandes. On a, évidemment, il y a eu des échauffourées sanglantes dans les rues. Et pendant que les mitrailleuses marchaient, on allait dans les pièces intérieures de l'appartement, plutôt dans la salle de bain, et on s'y tenait jusqu'à ce que ça se calme. Ce fut très difficile, et ce furent les années de famine, de grande famine. Nous étions sans chauffage, nous étions coupés également du Donetsk, nous n'avions pas de charbon. Quelquefois, on nous amenait un peu de pétrole en contrebande par la mer Noire du Caucase. On passait ses soirées avec une toute petite veilleuse, quelques gouttes de pétrole, comme devant les icônes, n'est-ce pas? Et puis, on se racontait des histoires invraisemblables, de bouche à oreille. Et bien sûr, dans la rade, au-delà de la rade, il y avait toujours des croiseurs français et anglais ancrés. On s'attendait à une intervention de l'Occident qui n'eut pas lieu, mais on s'y attendait toujours.
Alors au sud, il y a un corps expéditionnaire terrestre et il y a des navires.
Oui,
dont Nina Gorfinkel attend peut-être un peu trop.
C'est-à-dire que oui, on s'est installé à Sébastopol et à Odessa. Alors il faut dire quand même que ce corps expéditionnaire a tenté une incursion terrestre. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils étaient en appui avec l'armée de terre. Mais ils se sont retrouvés dans une situation inextricable, mais que décrit d'ailleurs bien cette archive. C'est-à-dire que sur place, il y avait des Allemands, parce qu'il y avait toujours des Allemands. Il y avait des Rouges, il y avait quelques Blancs, il y avait Wrangel qui était encore dans le coin. Vous aviez en plus Petliura, enfin les nationalistes ukrainiens, voire les anarchistes paysans de Makhno. Enfin, ça n'a pas été possible. Donc rapidement, les Français, avec quelques Britanniques, des Grecs, etc., sont repartis sur les bâtiments et Odessa a été transformée en camp retranché. Il n'était plus possible d'en sortir. L'idée, c'était juste de tenir ce port d'Odessa. Ça n'avait absolument aucun sens dans le fond. C'est pourquoi on a décidé de rapatrier ces corps expéditionnaires.
Mais avant le rapatriement, il faut décrire les nouvelles missions que provoque cette prolongation de la guerre. Il y a eu une grande opération humanitaire.
Oui, les soldats se sont retrouvés français particulièrement, mais pas seulement, se sont retrouvés face à de nouvelles missions. Il faut imaginer que dans le fond, c'était presque comme des casques bleus avant l'heure. On a une armée française qui, pendant toute cette période de guerre sans fin que nous traitons aujourd'hui, ont fait des missions d'interposition. Par exemple, en Haute-Silésie, entre les Polonais et les Allemands, ont eu des missions plutôt humanitaires. Alors, ça a été le cas, comme vous le disiez, en Crimée, en Russie du Sud, lorsqu'il a fallu rapatrier les derniers Blancs et qu'on a envoyés à Constantinople pour les mettre à l'abri.
Les derniers Blancs, mais je vois des chiffres étonnants. Alors,
135 000 quand même.
C'est faramineux. Il n'y a pas simplement l'impératrice douairière, toute de noir vêtue, qui salue ses derniers officiers.
Non.
Des dizaines de milliers de personnes.
Oui, mais lorsque je dis que c'était la fin, ce que j'entends par là, c'est pas qu'il ne restait plus de combattants, c'était que le combat lui-même était terminé à cette époque. Mais vous avez entre eux, effectivement, 120 000 et 135 000 blancs, alors civils et militaires d'ailleurs, qu'il faut exfiltrer en urgence parce qu'ils sont sous la menace bolchevique et donc l'on va envoyer vers Constantinople, comme je le disais. Mais cette marine française à Sébastopol à Odessa se retrouve quand même aussi assez rapidement dans l'inactivité la plus totale. Et ça, c'est très mauvais pour le moral des troupes.
Oui, les troupes ne comprennent pas pourquoi elles sont sur les bateaux. Et à peu près au même moment, coïncidant avec l'évacuation, eh bien des révoltes sur des croiseurs, le Protet, le Waldeck Rousseau. Alors on ne sait pas très bien quelle est la part politique de ces révoltes, quelle est la part de la fatigue, du mécontentement, du simple désir de retour, de l'hostilité peut-être de certains marins à leurs officiers. Voici un témoignage du rebond de cette mutinerie du printemps 1919, un peu plus en Méditerranée orientale, plus vers la Grèce. Celui qu'on va entendre, c'est une voix bien connue, une figure longtemps légendaire du Parti communiste, Charles Tillon. Mais d'abord Georges Walter.
Les bravos, les fleurs et les jeunes filles en fleurs, ce n'est pas pour les pauvres matelots du Guichin. Et les mois passent, pas de retour à Brest, pas de fiancés. On continue de ramener des soldats du front d'Orient. On en embarque même d'autres et même des Sénégalais. Et le maître après Dieu, le commandant Sémichon, ne semble pas du tout pressé de rentrer en France.
Et les officiers qui étaient en guerre, ils continuaient à percevoir leur traitement et ça comptait comme service de guerre. Mais nous avons donc dit, mais qu'est-ce que nous faisons là, nous? Nous continuons aussi, enfin nous étions, c'est pas tout l'équipage, nous étions un petit groupe de copains, nous étions 5-6 copains qui tous les jours lisaient la presse que je recevais, etc., et on parlait. C'est là qu'il a fallu décider de cesser ça.
Ça, c'est ce que dénonce un journal comme La Vague, socialiste, pacifiste, féministe, saisi le 22 mai 1919 parce qu'il a publié des lettres venues d'Odessa. « On se fout de nous », écrivent des marins. « Voilà 5 mois qu'on bourlingue dans la mer Noire. » Eh oui, la mer Noire. La mer Noire où l'officier mécanicien André Marty, fils d'un communard, a été arrêté au moment d'organiser la révolte sur le torpilleur Protet.
Marty en 19, Tillon en 20, les deux grandes figures, toujours associées du Parti communiste. C'était un reportage de France 2 en 1987. Isabelle Davion.
Sur cette archive, je pense qu'on entend des témoignages plus politisés que ne l'était la moyenne des mutins de la mer Noire ou de la Méditerranée orientale. Il y avait bien sûr une part de politique, mais on sentait bien que le lien avec les bolcheviks était davantage humanitaire, en lien avec ce qu'on entendait de la situation sur place, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas envie de tirer sur des gens dont on voyait qu'ils étaient dans la famine, etc. Et puis, l'idée de l'inactivité que je soulignais tout à l'heure est importante, parce qu'à partir de 1917, les grands bâtiments sont beaucoup moins utilisés dans la guerre. C'est plus les petites unités de lutte anti-sous-marine. Et on a des soldats qui ne savent plus ce qu'ils font là, surtout après l'armistice. Ce qu'on entendait, et là je boucle la boucle dans le premier extrait de Capitaine Conan, c'est qu'il y a quand même l'idée que l'armistice a été signé, que la France n'est pas en guerre contre la Russie bolchevique, et donc on n'a rien à faire ici. Et ça devient difficile de garder les hommes.
Merci à vous, Isabelle Davion. Le catalogue de l'exposition du musée de l'armée à l'Est, La guerre sans fin. Cette émission a été préparée par Frédéric Martin, à la réalisation Audrey Ripouille, à la technique Théo Gomard. Dans un instant, chez Mathieu Vidard, l'insomnie et les troubles du sommeil.